Mondial Sport,
RFI.
Hugo Moissonnier.
Bonjour à toutes et bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Mondial Sport, l'émission de tous les exploits aux quatre coins du globe sur RFI. Après tout, certains ballons sont ronds, comme notre planète, et la passion qu'ils génèrent est universelle. Ce n'est pas notre invité du jour qui me contredira. Il connaît la balle orange comme personne. Et il sait que sa trajectoire est parfois étonnante, imprévisible, et c'est ce qui en fait sa beauté. La trajectoire de notre invité l'a mené de l'ouest du Sénégal au pied de l'Olympe avec les Bleus, ES à la fin. Son parcours est un trait d'union entre deux pays, deux continents, un magnifique témoignage de la richesse, de la force, de la magie du sport. De sa cruauté, également, notre invité est passé tout près d'une médaille d'or au JO l'été dernier sur le banc de l'équipe de France féminine de basket. Pas un échec, plutôt un nouvel exploit dans un parcours remarquable. Une épopée que Mondial Sport va tenter de résumer en trois quarts d'heure. Pas simple, heureusement, de nombreux témoins et amis vont nous aider. C'est que notre invité du jour compte beaucoup d'admirateurs et nous sommes fiers et flattés de le compter parmi nous aujourd'hui. Jean-Aimé Toupane, légende du basket du Sénégal à la France, est dans Mondial Sport ce dimanche.
Allez, c'est pour toi, Gabi. Oh, c'est dedans.
Il me semble qu'elle a accordé à deux points, David.
Oh, c'est dedans. Alors, est-ce qu'il a accordé? Ouais, il a accordé à deux points. C'est bien ce qui me semblait. Elle avait le pied à l'intérieur. Les arbitres qui se concertent. Ouais, il me semble que c'est à deux points. Les Américaines qui dansent, hein, déjà sur le terrain. C'est terminé pour les Bleus. On vient mourir à un point des Américaines. Imaginez un petit peu. Oh, ce match, on s'en souviendra toute notre vie de cette finale. Elles s'en souviendront toute leur vie, ces Françaises.
Victor Mistrano, en direct de Bercy, au cœur de Paris. Un cœur qui a battu très fort, j'imagine. Est-ce que vous m'entendez, Victor?
Oui, c'est tout simplement ce qui s'appelle une rencontre de légende, un match dont on se souviendra peut-être dans 50 ans, car voilà, l'Armada américaine, une équipe considérée peut-être comme la meilleure équipe de tous les temps, tout sport confondu, invaincue depuis 1992 aux Jeux Olympiques, eh bien elle a vacillé face à des Françaises héroïques qui en tout cas se sont donné les moyens d'être dans le match jusque dans la dernière minute.
Et ouais, la joie des Américaines et les regrets éternels pour les Bleus.
Terminer comme ça, un point contre la meilleure équipe du monde, c'était frustrant et décevant. Mais voilà, après on réalise vite qu'on nous a fait douter. Je pense que pour nous c'était une première victoire. Oui, on montre que la France, on devient une nation basket. Après oui, elle reste la meilleure équipe du monde, mais on n'est pas très loin et on est très contente de ça.
Bonjour et bienvenue, Jean-Aimé Toupane.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation, même si nous ne sommes pas des hôtes très polis, puisqu'on vous accueille avec un souvenir donc aussi agréable que douloureux. Cette finale cruelle du tournoi olympique féminin l'été dernier à Paris, à la maison, face aux États-Unis, qui est aussi une réussite, même si ça s'est joué à rien du tout, comme le rappelait au micro de RFI, votre vedette Marine Johannes. On peut digérer un dernier panier dont on pense qu'il sera un 3 points, qui vous mènera en prolongation face à l'armada invincible et qui finalement n'est qu'un 2 points et tous vos rêves s'envolent. On peut digérer un tel événement?
Mais ça dépend. Quand on est entraîneur, ça reste marqué à vie. C'est quand même... on s'entraîne pour aller chercher des titres et là, on vient mourir à un point. Et pour autant, en tout cas, la réussite de façon globale par rapport au jeu est extraordinaire. Et je tiens en tout cas à remercier encore une fois de plus les filles, parce que les filles ont porté cette équipe et ont fait preuve vraiment d'abnégation, de courage. Et on ne peut être fier que, en tout cas moi, je me sens privilégié et fier en tout cas de les accompagner.
Je ne dévoile pas tout le déroulé de l'émission, je garde un peu le suspense, mais je crois que les filles, comme vous les appelez, elles ont aussi envie de vous remercier. On verra ça un peu plus tard. Vous êtes bien entouré, en tout cas, dans Mondial Sport, Jean-Aimé Toupane, en studio d'abord. Bonjour, Anne Dufour-Cornillier.
Bonjour Hugo, bonjour à tous.
Et merci d'être de nouveau là avec nous pour parler basket. Et on s'intéressera notamment avec vous à la trajectoire française de Jean-Aimé Toupane, qui a aussi une trajectoire africaine, sénégalaise. Et c'est ce qui fait la richesse aussi de votre parcours. Bonjour évidemment, monsieur basket dans Mondial Sport, Malik Dao, le MVP.
Bonjour Hugo, bonjour à tous.
D'autres amis, je le disais, vont nous rejoindre. Ils seront à distance, que ce soit dans le temps et ou dans l'espace. La partie sénégalaise de votre parcours, je le disais, Jean-Aimé Toupane, elle nous intéresse forcément parce qu'on est écouté à Dakar et pas que. J'imagine qu'on nous écoute également là où vous êtes né il y a 67 ans. Ouais. C'est ça, on peut le dévoiler, à Kaolack, dans l'est du Sénégal. Et la suite, c'est un ancien mentor, un certain Mamadou Sow, qui nous la raconte.
Bonjour Mondial Sport, bonjour Aissatou. C'est Monsieur Sow, ancien entraîneur national du Sénégal, ancien directeur technique du Sénégal, ancien entraîneur et directeur technique de la Gendarme pendant une vingtaine d'années. Je voudrais parler de votre invité de ce jour, Jean-Aimé Toupane, qui a eu à jouer à la Gendarme. Il était né à Kaolack du fait de l'affectation de son père, qui était greffier, puis il a rejoint la Casamance. Jean-Aimé Toupane a fait ses humanités de basket au Casasport de Jigenshore avant de rejoindre la GIA vers les années 75-76. Jean-Aimé Toupane était avec son frère Christian, joueur de qualité, disponible et très respectueux. Jean-Aimé Toupane a joué avec l'équipe nationale aux Jeux africains d'Alger en juillet 78, où il a été médaillé d'or après avoir battu la Côte d'Ivoire. Jean-Aimé Toupane a joué les championnats du monde aux Philippines avec l'équipe nationale en octobre 78. Puis, revenu au Sénégal, Jean-Aimé Toupane a continué à faire les beaux jours de la Gendarme de Dakar avant de prendre la décision de rejoindre la France. Jean-Aimé Toupane était élève au lycée Van Vleuten, un lycée mystique du Sénégal, devenu maintenant lycée Lamine Gueye, et avec son frère que nous avions introduit dans cet établissement où ils ont joué aussi en scolaire. Jean-Aimé Toupane était un garçon aimable, très respectueux du fait de son éducation. Nous faisons tout un plaisir de parler de lui ou de le voir dans ses œuvres d'entraîneur et nous lui souhaitons encore et encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de réussite.
Mamadou Sow qui avait été contacté par Assetou, Aissatou comme il l'appelle, Samaké, évidemment la tête pensante de cette émission, Jean-Aimé Toupane. J'imagine qu'il y a beaucoup de choses qui remontent. Mamadou Sow, vous vous souvenez de lui, l'un de vos premiers coachs?
Bien sûr, ça a été le coach qui m'a mis le pied à l'étrier parce que j'étais en Casamance dans les régions et il m'a fait venir à Dakar où je jouais à la Gendarme. Et en tout cas, il avait vu en moi en tout cas des qualités qui m'ont en tout cas permis de construire tout ce cheminement.
Ouais. C'est en Casamance que le virus du basket vous l'attrapez ?
Je l'ai attrapé en Casamance. Il faut savoir que mon frère, Christian, lui, il était basketteur, mais moi, j'ai commencé par le judo.
D'accord.
J'ai eu marre de prendre des coups aussi bien. Et je l'ai suivi dû aussi à la proximité de notre maison à côté d'un stade. Et c'est comme ça qu'on a commencé à jouer au basket. Et aussi par Souleymane Ndiaye.
Oui.
Souleymane Ndiaye qui était aussi un coach formé en France, comme Mamadou Sow. Et lui aussi m'a aidé aussi dans mes premiers pas dans le basket.
Qu'est-ce qui vous a plu dans le basket, outre le fait de prendre moins de coups, si j'ai bien compris?
Et ce qui m'a appris, c'était déjà de faire en équipe, de travailler ensemble, et puis surtout aussi par le fait que c'était quand même un sport... j'allais dire à l'époque quand on regardait ceux qui ont pu en tout cas impacter ce sport là par sa beauté. Par sa beauté, par l'élégance des joueurs. C'est un sport qui vient des États-Unis et forcément, il y avait beaucoup de mimétisme par rapport aux jeunes Africains qui regardaient tout ce qui se passait aux États-Unis. Et ça a été quelque chose d'extraordinaire, en tout cas pour moi. Ce qui m'a surtout plu, c'est le fait d'être ensemble, de construire des choses ensemble dans un petit terrain où ça va très vite. Et l'état d'esprit, c'est quelque chose qui m'a toujours animé. Voilà.
Est-ce que c'est aussi le fait que ce soit vraiment un jeu, peut-être plus que le judo, où c'est assez différent? Là, on est vraiment en train de jouer, peut-être le fait de s'amuser.
Un jeu, moi, non. Moi, c'était surtout de faire ensemble. Voilà. C'était devenu un jeu parce que dans tous mes projets où je me suis investi, même s'il y a ce côté de jeu... Mais pour ceux qui me connaissent, bon, on a l'impression que je suis toujours sérieux. Mais je prends du plaisir aussi à être sérieux. Mais c'est surtout de faire ensemble. Et puis, j'ai vite compris aussi que je ne pouvais pas réussir sans l'autre. Et que l'autre ne pouvait pas réussir sans moi. Donc, il y avait dans cette relation-là une volonté de s'engager, mais aussi de responsabilité aussi par rapport à l'autre. C'est ça. Ça c'est quelque chose de central par rapport à ce que je vis dans ce sport.
Voilà. Malick Daho, ça fait écho à votre propre passion.
Bon, moi, je ne sais pas si c'est la même, mais moi, je me suis mis au basket parce que ça facilitait la drague.
C'est un autre sujet.
Parce qu'en scolaire, dans l'établissement, bah, c'était la période où on était des fans d'Harlem Globetrotters, c'est tout, voilà. On avait des cheveux afro, vous ne me croirez pas en voyant ma tronche comme ça, mais bon. Mais voilà, pour parler du sérieux, parce que Jean-Aimé l'a dit, il était sérieux dans ce qu'il faisait. Moi, je l'ai vu quand il jouait à Monaco. Et à cette période-là, c'était un des meilleurs défenseurs de France. Il ne lâchait rien.
Et alors justement, ça, vous l'avez appris à ne rien lâcher aussi à Dakar. La Jeanne d'Arc de Dakar, c'est un très grand club, une institution. Et également, vous êtes formé à Dakar en tant qu'homme, on l'a entendu. Il y a aussi la partie scolaire, vous fréquentez un lycée réputé. Outre peut-être la coupe afro et la drague et peut-être la musique et les États-Unis, on en parle juste après. Qu'est-ce qui a compté comme ça dans cette éducation? Mamadou Sow, il parle de votre éducation, vous avez été bien éduqué.
Oui, j'ai un papa qui était, comme il a dit, greffier, après qui est devenu magistrat et qui a toujours eu cette droiture-là et qui était un papa très sportif. Mais il nous a toujours dit le sport, c'est bien, mais ne pas oublier l'aspect scolaire éducatif. Donc, j'ai eu la chance en arrivant à Dakar de fréquenter le lycée, qui était un lycée renommé, où j'ai fini mon cursus jusqu'en terminale. Et puis... Mais pour moi, ça allait de pair. Et toute ma carrière, même en France, j'ai jamais arrêté mes études universitaires. Donc ça a été quelque chose de vraiment un parcours parallèle dans ce sens.
Malgré les tentations musicales, est-ce qu'il peut aller avec? Mais bon, ça, c'est pas mes affaires. Toujours est-il qu'apparemment, vous écoutiez beaucoup Bob Marley.
C'est vrai.
Comme
c'est
Malick Daho.
C'est vrai, c'est vrai.
On a beaucoup
vrai.
De points communs.
C'est vrai.
I wanna jam it with you. We're jamming, jamming. And I hope you like jamming too. Ain't no rules, ain't no vow. We can do it anyhow. I and I will see you through. Cause every day we pay the price. We're the living sacrifice. Jamming till the jam is through. We're jamming. Mount Zion.
it rules all creation. Here we're jamming. Wop you wah wah wah. We're jamming. See, I wanna jam it with you. We're jamming.
Bob Marley, Jamine, et on a réussi à vous faire perdre un petit peu votre sérieux, Jean-Aimé Toupane. Vous avez un peu remué sur ce morceau qui, lors de vos années lycéennes de jeunesse à Dakar, peut-être passé dans votre radio ou alors sur votre platine en vinyle. On est dans les années 70 ?
75, 70, ouais, c'est les années 70, ouais, c'est ça, ouais.
Une grande période pour le basket sénégalais. Et justement, avec nous, une autre gloire de la balle orange dans votre pays, dans les 70s. Joe Lopez est avec nous. Bonjour, Joe.
Mon gars.
Ça va, Joe.
Joe, je vous présente rapidement. Je vous présente rapidement et après je vous laisse entre vous, entre vieux copains. Champion d'Afrique deux fois avec le Sénégal, premier joueur africain dans le championnat universitaire américain, grande performance. Et actuellement, on va reparler de vous bientôt parce que vous êtes le président du Creole Star, un club capverdien qui va faire découvrir au Cap-Vert la BAL, la Basketball Africa League. Et ce sera à Dakar justement dans quelques jours, conférence Sahara de la saison régulière. Joe, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Jean Aimé Toupane, vous êtes connu dans les années 70 au Sénégal ?
Ah oui, ça c'est mon cas. Hein. Mais, ça c'est mon vrai cas. En tout cas, ce que je peux dire d'Aimé Toupane, c'est tellement long, mais je vais être bref. Parce que moi, quand je regarde Aimé, quand on jouait, c'était vraiment le cœur et l'âme défensive de notre équipe, tant à la Jeanne d'Arc comme en équipe nationale. De parmi tous les joueurs que j'ai eu à côtoyer dans ma carrière sportive, vraiment rares sont ceux qui incarnent le sens du collectif que Jean-Aimé Toupane. Bon, il n'a jamais joué pour la gloire personnelle, un homme très effacé, mais un jour qui comprenait le vrai succès vient du sacrifice et du courage silencieux. Oui, ça c'est vraiment Aimé Toupane. Et ce que j'ai beaucoup apprécié de mon frère Aimé, vraiment, c'est qu'il a toujours, et je répète, hein, toujours été présent en défense, prêt à combler les brèches, parce que moi, j'étais un peu fainéant sur les bords de temps en temps. Il venait toujours en l'aide, bien que c'était un ailier, mais il venait aider avec les grands, parce que c'était le genre de courage qu'il avait. Il venait en l'aide, il faisait des efforts supplémentaires. C'était un excellent défenseur. Et quand j'entends qu'il a fait les beaux jours de Monaco, ça ne m'étonne pas. Mais vraiment, au-delà de ses qualités athlétiques, moi, c'est l'homme que je veux saluer aujourd'hui. Parce que vous comprenez, Aimé, pour moi, c'est un frère, mais c'est un coéquipier exemplaire. Mais quand je dis exemplaire, c'est avec un E majuscule. C'est un ami fidèle, moi.
Joe Lopez, vous allez le faire rougir. Jean-Aimé, vous voulez répondre à votre ami?
Il est très émotif. C'est un leader naturel. De tout temps, il a été un leader. Ce n'est pas le leader qui venait, qui parlait, qui râlait à gauche, à droite. Bon, maintenant, il râle comme entraîneur. Bon, mais un joueur comment on dit en anglais, lead by example.
Okay. Oui, est un leader par l'exemple, c'est son attitude, il n'a pas besoin de parler, on le suit naturellement. Ouais.
Pour moi, ce que je retiens d'Aimé, et on parle de peut-être presque 50 ans maintenant, il a toujours inspiré le respect par son humilité, par son travail et sa loyauté. Ouais, moi, c'est comme ça que je vois Aimé, et pour ça, je veux vraiment terminer en lui disant merci Jean-Aimé,
merci
pour
à vous,
tout ce que tu apportes au jeu de basket.
Ben, écoutez,
ton impact, mon cher, va au-delà de la France. Ça va au-delà de nos frontières. En tout cas, bonne continuation. Et aujourd'hui, on supporte tous l'équipe nationale de France féminine. Parce que là où tu joues, on joue avec toi.
Merci beaucoup, Joe Lopez, merci. Pour ces quelques mots qui, à mon avis, font très plaisir à Jean-Aimé Toupane. On va le laisser réagir, puis vous, on va vous libérer, sachant qu'on va vous retrouver assez rapidement, Joe Lopez, à l'occasion de la Basketball Africa League. Et on vous souhaite bon courage avec Creole Star, les Cap-Verdiens, et une excellente journée à vous. Merci d'avoir été en direct dans le Mondial Sport. Jean-Aimé Toupane, on fait remonter les années 70, fin 60 jusqu'au début 80, c'est vraiment une décennie dorée avec Joe Lopez ou d'autres pour le Sénégal, avec 4 titres continentaux, notamment sur les 5 que vous avez remportés dans votre pays dans l'histoire. C'était aussi naturel pour ça, pour un jeune Sénégalais, de s'intéresser au basket. C'était chez les femmes aussi, c'était des succès à n'en plus finir. C'était vraiment le sport quasi national avec la lutte et le basket au Sénégal à l'époque.
Oui, juste avant de vous répondre, dire à un moment, on est quand même dans un contexte de sport coco. Et que, à un moment donné, mettre quelqu'un en avant, ça m'embête toujours. J'ai réussi quelque part, on est bien quelque part, parce que les voisins aussi sont bien, ont créé les conditions de voilà, ça reste.
Et justement, il y avait une émulation au Sénégal à l'époque. Tout était fait pour que le basket, ça fonctionne bien pour tout le monde.
Exactement. C'était d'abord une camaraderie. On était amis déjà, en dehors du terrain. On se voyait beaucoup, on partageait plein de choses. Et puis, je sais pas si tu t'en rappelles, au Sénégal, ils organisaient ce qu'ils appelaient la semaine ou la quinzaine nationale. Ouais. Ça veut dire que tous les sports se retrouvaient à Dakar. Et il y avait plein de rencontres dans toutes les disciplines. Et c'est ce qui fait que finalement, on s'est connus, on a créé en tout cas des connexions. Mais cette émulation-là a fait que le sport, de façon générale, en tout cas au Sénégal, en tout cas, est monté d'un cran.
Malick Diaw, le Sénégal reste un grand pays au niveau national, même si là, il faudrait retrouver la médaille d'or un petit peu au niveau de l'afro-basket. Mais on parlait de la Basketball Africa League, Dakar, c'est l'épicentre.
Oui, Dakar.
C'est même l'épicentre de la NBA en Afrique.
Oui, c'est le siège de la BAL. Après, on a un bureau à Johannesburg, un bureau à Lagos, mais c'est le siège de la Basketball Africa League et c'est là-bas que se prennent les décisions, c'est là-bas que tout s'organise.
Une académie également.
Voilà, il y a une académie de laquelle aujourd'hui on a un joueur qui va peut-être être drafté très très haut, Kaman Malouache. Donc c'est voilà tout le travail des éducateurs aussi qui est à saluer. Et puis quand j'entends Joe Lopez, ça m'énerve parce que c'est toujours la Côte d'Ivoire qu'on tapait en finale. Nous, on était bons pour la médaille d'argent parce que moi, je débutais ma carrière, mais on regardait les finales. Et puis parfois, on peut voir une mi-temps et puis en deuxième mi-temps, c'était une des premières nations en Afrique à jouer ce qu'on appelait la zone presse.
C'est quoi la zone presse ?
La zone presse, c'est une défense haute. Avec beaucoup d'agressivité, des prises à deux, et nous on perdait tous nos moyens. À partir de ce moment, on savait qu'on allait perdre.
Le basket total sénégalais, vous êtes content de voir que justement, par rapport, on parlait de la balle, la NBA, Dakar reste une place forte du basket en Afrique, Jean-Aimé Toupane.
Alors, juste pour revenir par rapport à ce que Malick vient de dire, il faut savoir que la réussite d'un sport, aussi bien en France que même à l'époque au Sénégal, était quand même une volonté d'un État. Ça veut dire que tous les entraîneurs, dont Mamadou Sow et d'autres, ont été formés en France. Oui. Et je pense que c'est l'avance qu'on avait par rapport à d'autres pays. Ils sont venus passer quand même un an ou deux ans ici. Ils sont revenus en France. Ils ont mis en place des structures dans les écoles, au plus jeune âge, avec des compétitions qui ont permis en tout cas l'émergence en tout cas du basket. Et comme le Sénégalais, en général, a un profil grand et lancé. Donc, ça a permis, en tout cas, de dominer à un moment donné, je pense, pendant 15 ans. Oui. Et c'est vrai que souvent, c'était le Sénégal, souvent contre la Côte d'Ivoire, qui se retrouvait en finale. Et bon, ils nous avaient battu quand même.
Pas beaucoup de fois.
Et aujourd'hui, c'est peut-être le savoir-faire américain qui va nourrir le Sénégalais avec la NBA qui vient chapeauter. Justement, on va en parler de NBA, des playoffs qui ont débuté dans notre point sur l'actualité sportive dans Mondial Sport.
Mondial Sport.
Avec le patient Baptiste Leduc. Bonjour Baptiste.
Bonjour Hugo, bonjour à tous.
De quoi on parle? Football pour commencer, j'imagine.
Allez, un petit peu de foot, de Première Ligue, victoire 4-0 d'Arsenal, les Gunners contre Ipswich ce dimanche. Ils retardent un petit peu le sacre des Reds de Liverpool dans cette Première Ligue avec cette victoire. Même si les Reds gagnent contre Leicester, ils devront attendre au moins la semaine prochaine pour officialiser leur 20e titre de champion d'Angleterre. Et en plus, ils sont en train de faire 0-0 à la mi-temps contre Leicester, Liverpool.
Vous êtes fébrile, mon cher Baptiste, car c'est jour de derby en Ligue 1 entre Saint-Etienne et un club qui vous est cher, l'Olympique Lyonnais.
Deux clubs, on va dire les deux sont fébriles un petit peu parce que les Stéphanois jouent le maintien. Lyon forcément doit se remettre de sa terrible désillusion contre Manchester United en Ligue Europa cette semaine. Le coup d'envoi sera à 18h45 en temps universel et Lyon ferait bien de s'imposer s'il veut rester dans la course pour le podium puisque Lille a gagné aujourd'hui contre Auxerre 3-1.
La Formule 1, évidemment Baptiste, le paddock en Arabie Saoudite ce week-end.
Avec une course qui va partir à 17h temps universel dans quelques minutes maintenant. Ça devrait être intéressant au départ puisqu'il y a 4 voitures différentes aux 4 premières places sur la grille. Verstappen et sa Red Bull sont en pole position juste devant la McLaren d'Oscar Piastri. En deuxième ligne, on retrouve la Mercedes de George Russell et la Ferrari de Charles Leclerc. À noter Hamilton en 7e position et Norris, le leader du championnat du monde, 10e. Il a fait un accident hier en qualification.
On revient vers le basket en douceur, Baptiste Leduc. La suite, je le disais, du premier tour des playoffs de la NBA et les cadors de la saison régulière qui entrent en lice.
Oui, on peut le dire. Il y a déjà Oklahoma, le Thunder, la meilleure équipe de la saison régulière qui va affronter Memphis, les Grizzlies, à 17h, temps universel aussi dans quelques minutes. Ensuite, on aura le champion en titre, Boston, les Celtics contre Orlando à 19h30, temps universel. Et puis après un autre choc, Cleveland Cavaliers contre Miami Heat, 23h temps universel, avec à la tête de Cleveland, Kenny Atkinson, le coach de l'année en NBA que vous avez sûrement croisé, Jean-Aimé Toupane, cet été, puisqu'il était dans le staff des Bleus.
Et qui est un peu français quand même.
Oui, il disait dans l'équipe ce matin qu'il pleurait encore quand il écoutait la Marseillaise.
C'est qui le favori pour la victoire en NBA?
Beaucoup plus spécialiste.
Oh, non, non. trop modeste, Jean-Aimé Toupane. Merci beaucoup, Baptiste Leduc.
Merci.
On va rester sur le basket et on va faire le lien entre l'Amérique et vous, Jean-Aimé Toupane, sélectionneur évidemment de l'équipe de France féminine, puisque on va prendre justement des nouvelles de l'une de vos protégées. À 19 ans, Dominique Malonga va, et ce n'est pas la seule dans votre équipe de France féminine, faire le grand saut aux États-Unis. Donc, la prodige d'1m98 n'est-elle pas au final la Victor Wembanyama au féminin a été recruté dans la nuit de lundi à mardi par le Storm de Seattle en deuxième position de la draft et qui était organisée à New York par la WNBA, enfin en tout cas la NBA au féminin. Une nouvelle étape dans le parcours d'une prodige qui est née au Cameroun à Yaoundé, Victor Missistrano.
Les yeux fatigués après une longue soirée chargée en émotions et un réveil très matinal, Dominique Malonga arbore un grand sourire et sur la tête la casquette des Storms, sa nouvelle équipe.
C'était un rêve. Parce que tu imagines qu'on des joueuses que tu regardes depuis que t'es petite et quand même la meilleure ligue du monde avec les meilleures joueuses du monde. Donc forcément, ça fait rêver d'y jouer. Aujourd'hui, le fait d'y entrer, c'est quand même incroyable. Seattle, on sait que c'est une franchise très, très compétitive et on sent vraiment que c'est une structure vraiment de haut niveau et que la performance y est la clé. Donc j'ai vraiment hâte d'intégrer cette structure-là.
Lundi soir, le rêve américain a donc officiellement débuté.
Le soutien que j'ai reçu après, derrière, c'est incroyable. J'avais 17 000 abonnés sur Insta, je pense. Là, je pense que je suis à peu près à 23 000, 24 000. Donc ça a vraiment explosé et j'ai eu énormément de messages. Je ne peux pas vous dire le nombre de messages, mais voilà, heureusement que j'ai un téléphone performant.
Quand son nom a été appelé en deuxième position lors de ce cérémonial de la draft, Dominique Malonga a tenu à saluer le Cameroun et le Congo-Brazzaville, dont les drapeaux étaient installés autour de sa table, aux côtés du drapeau français.
C'était la fierté de lever haut et fort tous mes drapeaux qui me représentent aujourd'hui, parce que aujourd'hui mon identité c'est ça, je suis française, je porte haut et fort les couleurs de la France en équipe de France l'été, mais aussi je suis camerounaise et congolaise par mes parents, née au Cameroun, donc j'ai vraiment une très grande attache à mes racines africaines, je suis tellement fière de pouvoir représenter ces pays là aujourd'hui sur le grand écran. C'est vraiment ce que je vais vouloir apporter tout au long de ma carrière et ça commence dès maintenant, voilà, de montrer qu'il ne s'agit pas que de moi aujourd'hui, il s'agit de tous les gens qui sont derrière moi, qui me soutiennent tout le temps, de tout simplement rendre l'amour que ces trois pays m'ont donné depuis ma naissance.
Et c'est à Yaoundé où elle a passé les 10 premières années de sa vie que Dom, son surnom, a fait ses premiers pas sur les terrains dans l'académie fondée par sa mère, ancienne internationale camerounaise Agathe Ninjem, présente avec elle à New York.
J'ai voulu symboliquement aller d'abord avoir elle parce que c'est quand même une une des principales raisons pour lesquelles je suis là aujourd'hui. Il y a beaucoup d'émotions, mon père pareil, ils avaient tous un peu des états dans les yeux. Il y a quelques années encore, je ne voulais pas être forcément basketteuse, je ne voulais pas du tout être professionnelle. Moi, j'étais dans les études, voilà, je voulais faire de grandes études, etc. Et en fait, je pense que c'est un peu le basket qui m'a trouvé, qui m'a un peu dit, bah non, tu vas être basketteuse en fait finalement. Et je l'ai accepté et aujourd'hui, je suis tellement contente d'avoir fait ce choix-là. Quand je regarde en arrière, je me dis, waouh, wow, c'est un chemin incroyable. Je me revois encore toute petite, un peu la fille qui était là au bord du terrain, qui regardait sa mère jouer, mais qui se disait, bah, moi, je vais juste rentrer lire mon livre.
Depuis, Dominique Malonga est devenue vice-championne olympique, deux fois meilleur espoir du championnat de France, et elle est la première française à avoir réussi un dunk en compétition professionnelle, en attendant de rééditer bientôt ce geste sur les paniers américains de la WNBA dès le mois prochain.
Le reportage de Victor Missistrano, ça vous fait quoi, les mots de Dominique Malonga, la pépite?
C'est émouvant et puis c'est inspirant quand on voit à 19 ans s'exprimer comme elle s'exprime. Mais Dominique, on le sait, c'est une fille qui a plein de talents.
J'imagine que vous avez du coup regardé la draft et qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous l'avez vue là comme ça draftée en deuxième position et est-ce que vous lui avez envoyé un petit mot peut-être?
Oui, j'ai envoyé un petit mot. Mais je pense que plein de personnes de l'équipe de France lui ont envoyé en tout cas des messages. Moi, j'étais ému et puis contente pour elle, contente pour qu'elle fasse partie de notre équipe. Mais c'est pour les jeunes filles, en tout cas, de notre sport, qui vont voir que c'est possible. Parce que, comme elle l'a dit, quand on voit ça, on ne s'imagine pas qu'on peut le faire. Bien sûr que c'est possible.
Alors, c'est une récompense de votre bon travail, de votre place de finaliste au JO. Mais c'est aussi, parce que la WNBA et la WNBA, c'est l'été, un petit casse-tête en tant que sélectionneur, c'est ça? Après, pour les rapatrier, pour les échéances, comme le championnat d'Europe qui arrive?
Non, c'est le travail de toute une fédération, de tout un système qui est mis en place pour en tout cas favoriser cette émergence de nos meilleurs talents. Je pense que, comme j'ai dit tout à l'heure, des pôles espoirs, des clubs, des centres de formation, du pôle national, tout ça fait qu'en tout cas, on voit de plus en plus, en tout cas, nos meilleures joueuses draftées au premier tour. Malik, qui vous le dira tout à l'heure, par rapport au système de draft, c'est très, très difficile d'être à ce niveau-là. Et aujourd'hui, la France reste peut-être le pays le plus représenté en dehors des États-Unis, je pense, à NBA. Et Dominique, aujourd'hui, c'est vrai que d'un côté, la réussite, notre réussite, nous pose d'autres problèmes, mais ce ne sont que des problèmes de riches. Et moi, ce que je souhaite à toutes ces filles-là qui sont de l'autre côté, c'est de réussir leur vie, en tout cas, là où elles sont.
Mondial Sport, Hugo Moissonnier.
Jean-Aimé Toupane, invité exceptionnel de Mondial Sport, Malik Dao, Anne Dufour-Cornillier sont également avec nous. Une autre légende du basket sénégalais des années 70-80. Un message pour vous, Jean-Aimé Toupane, la championne d'Afrique, Fatou Ndiaye Sow.
Bonjour Mondial Sport, bonjour à l'invité du jour Jean-Aimé Toupane. Je te salue et je te dis que je suis vraiment ravie de participer et de te faire coucou dans ton émission et dire à quel point vraiment on s'apprécie tous les deux. Pratiquement nos carrières en France, on les a fait presque en même temps. Tu es venu un peu avant moi et je t'ai rejoint en France. On s'est beaucoup croisé quand j'étais à Valenciennes-Orchies, tu étais à Gravelines. Donc voilà, on vient tous les deux de notre Sénégal. Et vraiment, même avant de partir, tout le monde te connaissait, ton sérieux, ta rigueur. Tu l'as eu pendant ta carrière, tu as fait une carrière exemplaire, sans trop de bruit, mais toujours dans l'efficacité. Et c'est ce qui continue aujourd'hui également. Et aujourd'hui, tu es à la tête de notre équipe nationale, l'équipe de France féminine. Et tu fais de très, très, très belles choses avec cette équipe féminine. Médaille d'argent au JO, tout le monde a ça encore dans la tête. Et vraiment, bravo, bravo, bravo pour toute ta carrière aimée. C'est pas fini, ça continue, ça va continuer et on te souhaite vraiment le meilleur encore, apporte-nous encore plein d'autres médailles. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci.
ça vous fait plaisir, même si vous voulez pas être le centre de l'attention. Ça vous fait plaisir ce message de Fatou?
Oui, ça me fait plaisir, d'autant plus que, comme elle a dit, on était à la même période quand elle était à Valenciennes, j'étais à Gravelines. Et puis, ce qu'il faut savoir de Fat Kiné, elle est repartie au Sénégal. Elle a monté une académie, elle s'occupe des jeunes filles, des jeunes garçons. Et ce n'est que, en tout cas, qui représente en tout cas sa personnalité. Ça a toujours été quelqu'un qui voulait donner aux autres. Voilà.
Redonner ce qu'elle a,
redonner ce qu'elle a pu avoir et elle le fait très bien au Sénégal.
Elle parle de la découverte de la France dans les années 80. Donc pour vous, comme pour elle ou pour d'autres, c'était comment? Du coup, qu'est-ce que ça représentait d'aller jouer en France? Vous avez fait une longue carrière ensuite jusqu'à la fin des années 90 dans le championnat de France.
Oui, j'ai fait une longue carrière initiée par un mentor qui est Alain Jardel, parce que je suis arrivé par Mirande. Et Alain Jardel a été mon premier entraîneur. Et c'est vrai que ce pays-là m'a permis, en tout cas, qu'il m'a bien accueilli, parce qu'aujourd'hui, je peux dire que je me suis nourri des deux cultures, même si j'ai beaucoup plus vécu ici qu'au Sénégal, en tout cas. Mais ça a été quelque chose qui a enrichi ma vie, qui m'a appris beaucoup de choses, qui m'a apporté beaucoup de choses. Je remercierai jamais, en tout cas, la France. Même si le Sénégal reste ancré au fond de moi-même.
Et il y a cette place pour deux pays, j'imagine, dans votre tête et dans votre cœur. Malick Dao, vous, en tant que jeune amateur, aspirant champion de basket, ça a plutôt bien marché. Qu'est-ce que ça représentait de voir justement des joueurs africains aller vivre leurs rêves dans un championnat européen, dans le championnat français notamment?
Ben, c'était des modèles pour nous. C'était des modèles pour nous parce que quand on commence à jouer au basket, on s'est dit, ah tiens, il y a Jean-Aimé en France, il y a Adidas en France, il y avait un Ivoirien, Diedrissa en France. Voilà, et Mathieu Faye, on s'est dit, ah ben j'ai envie d'être comme eux. Voilà, donc pour nous, c'était des modèles et je peux vous dire que quand on revenait de la récré, les profs ne voulaient pas nous voir parce qu'on transpirait, on puait. Parce que les 15 minutes de récré, c'était sur le playground du collège. Et voilà, parce que c'était pour nous... un rêve aussi. Eux, ils ont pu aller jouer en France. Nous aussi, on va essayer de copier.
Et à la fin des années 90, Jean-Aimé Toupane, vous devenez entraîneur à Toulouse, là où vous finissez aussi votre carrière. Et puis, ça s'enchaîne, beaucoup de clubs entraînés en France. Et peut-être l'un des plus marquants, Anne, c'est Clermont pour Jean-Aimé Toupane, Clermont-Ferrand, 2001-2008, où vous croisez notamment un certain Rachid Méziane. Bonjour Rachid.
Bonjour,
merci d'être en direct avec nous aujourd'hui, coach des Suns du Connecticut dans la NBA féminine dont on parlait justement. Et c'est vous, Anne, qui aviez eu l'idée de contacter Rachid Méziane pour qu'il puisse retrouver Jean-Aimé Toupane.
Oui, parce que je crois que vous avez un petit différent parfois à régler pour savoir qui est le plus clermontois des deux. Donc je voulais voir un peu ça en direct.
Ouais, parce que Rachid, oui, vous êtes un pur produit de Clermont et Jean-Aimé Toupane a été entraîneur.
Voilà, moi je suis une pièce rapportée. Lui, il était vraiment vrai.
Aimé a marqué l'histoire du stade clermontois et du coup de Clermont. Mais moi, je suis quand même né à Clermont, donc le débat est
en
quoi est-ce qu'il a marqué Clermont? Il l'a remonté, c'est ça? Il l'a hissé au niveau?
Ouais, bah, dans les années 2000, il a pris le club du stade clermontois en National 2, et voilà, année après année, là, il a su faire remonter cette équipe jusqu'à ce qu'on appelait à l'époque la Pro A, donc ce qui n'était pas une tâche facile, et c'est vrai que moi, j'écoute depuis un moment l'émission, et ce qui a caractérisé Aimé, qui a caractérisé cette équipe du Stade Clermontois, c'est cette rigueur, cette discipline. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir accéder à la maison des sports, et parce que Aimé était un coach qui aimait partager, aimait échanger. C'est vrai qu'avec Guillaume Bizade, on aimait aller se mettre et s'installer dans les tribunes pour assister aux entraînements. Et c'est vrai que voilà, c'est la dureté, l'exigence, pas la dureté, mais l'exigence qu'il arrivait à mettre en place avec son équipe, c'est tout à fait lui, à travers ses valeurs d'humilité d'ailleurs, que je veux souligner.
Et est-ce que justement ça vous a inspiré ensuite, Rachid, quand vous êtes devenu entraîneur?
Oui, bien sûr. Moi, ces années-là, je le suis d'ailleurs toujours, mais je fonctionnais un peu comme une éponge, donc j'ai essayé d'aller m'inspirer, de voir ce qui se faisait au plus haut niveau, et c'est vrai que ouais, Aimé avait partie de ces entraîneurs qui ont été des modèles, donc qui ont aujourd'hui un impact dans notre façon de, en tout cas dans la mienne, pour parler de moi, de travailler, quoi.
Et Rachid Méziane, vous lui en voulez pas de vous avoir battu lors des derniers Jeux Olympiques, vous étiez le sélectionneur de la Belgique.
C'est la question que je voulais poser.
Ah, bah allez-y, parlez à Malik.
Non,
il faut le lever la main. Sachant qu'il a été champion d'Europe aussi avec la Belgique.
J'allais...
Là, vous n'avez fini, entre guillemets, que troisième en 2023.
Exactement, j'allais lui dire. En tout cas, je suis très content parce qu'on a Rachid est un grand entraîneur de notre sport en Europe. Et j'espère qu'il va avoir le même parcours aux États-Unis. Et pour revenir à ça, on a fait un partout. Il nous a battu pour le championnat d'Europe, on l'a battu là. Et merde, il s'est barré aux États-Unis.
Ah, il y aura pas de
Rachid.
De Bell.
En tout cas, je te souhaite vraiment le meilleur. Tu le sais, on communique souvent, on parle souvent. Il va avoir une fille importante de l'équipe de France, Laïla, qui sera dans son équipe et c'est un ami, voilà, on partage plein de choses. Voilà.
Merci beaucoup, Rachid Méziane.
Interdiction de battre les Bleus désormais.
Ouais, je vais trouver une autre occasion de
montrer. Mais il reviendra, Rachid.
Merci beaucoup, Rachid Méziane, aux États-Unis, d'avoir été quelques minutes en direct avec nous et pour parler donc de Jean-Aimé Toupane, qui a été quelque part votre modèle. Alors, à l'époque, vous entraîniez en club, mais vous avez évidemment une carrière aussi de coach, on va dire, national, et notamment, voilà, jusqu'à votre poste actuel, quand même, l'équipe de France féminine. Donc, on a parlé, vous êtes là depuis 2021, on a parlé de votre troisième place au Mondial en 2023, et puis, donc, cette finale des JO en 2024. Mais la question qu'on a envie de poser à vos protégés, c'est qui est justement de l'intérieur, Jean-Aimé Toupane, le coach, le sélectionneur, et justement quelques joueuses de l'équipe de France féminine nous ont répondu. Ce sera un blind test. On les écoute et vous nous dites si vous avez reconnu les voix.
Aimé, c'est quelqu'un que j'estime beaucoup, de droit. C'est quelqu'un d'honnête, qui a vraiment des belles valeurs humaines. Et au-delà de ça aussi, c'est un super coach. Et moi, je lui dois beaucoup parce que c'est lui qui a cru en moi ces dernières années et ma relation avec l'équipe de France était un petit peu compliquée depuis bon nombre d'années. Et lui a réellement cru en moi et a vu vraiment qui j'étais, les valeurs que je pouvais transmettre et ce que je pouvais apporter à un groupe. Et il m'a fait confiance. Je lui suis vraiment reconnaissante et j'essaye vraiment à chaque fois de donner le meilleur de moi-même pour lui parce que voilà, il en vaut vraiment la peine et c'est un entraîneur qui sait vraiment tirer le meilleur de ses joueuses. C'est un grand coach et une grande personne aussi.
Si je dois dire quelques mots sur Aimé, c'est un coach, c'est une personne qui a marqué ma carrière, en tout cas ma fin de carrière. C'est vrai qu'en équipe nationale, après Tokyo, je pensais pas forcément continuer. Et puis j'ai rencontré Aimé qui est arrivé avec cette nouvelle ère. Il a redistribué les cartes, il a fait preuve de résilience parce qu'il était attendu au tournant et puis il nous a poussé dans nos retranchements, il a mis en place des valeurs humaines et collectives, il a donné la chance à tout le monde, il a permis à tout le monde de pouvoir s'exprimer de manière sereine, voilà, avec des notions d'engagement, d'intensité et d'esprit d'équipe, d'abnégation qui ont fait que voilà, on a montré un visage à Paris et que l'objectif de ramener une belle médaille a été atteint. Il a réussi à imposer sa patte sur ces dernières années.
Alors pour moi, Aimé, c'est vraiment un homme de valeur, un homme droit. C'est quelqu'un qui est très old school dans son approche, mais qui justement nous apporte ce côté valeur d'engagement, valeur de loyauté, finalement tout ce qui fonctionne. Il nous a apporté beaucoup de discipline, beaucoup d'engagement, beaucoup cette quête de réussite, cette façon de se donner les moyens de réussir. Et j'apprécie vraiment ça chez lui. Il traite tout le monde de la même façon, il n'y a pas de traitement de faveur.
Et ça, dans une équipe, alors forcément, il y a une hiérarchie qui est établie sur le terrain et aussi en dehors. Mais en tout cas, il a ce truc de... voilà, tout le monde est considéré de la même façon, que ce soit ses joueuses ou son staff. Voilà.
Alors, Jean-Aimé Toupane, est-ce que vous avez reconnu les voix? Je vous donne les prénoms. Romane, Sarah et Valériane.
Ouais, Romane, Sarah et Valériane. Super. Super, c'est en tout cas des joueuses... j'ai de la chance. J'ai de la chance d'accompagner une équipe extraordinaire avec des filles de grande valeur. Voilà. Donc, je suis arrivé, on a posé le cadre, on a posé la direction... C'était pas facile au départ, mais en tout cas, tout le monde est adhéré. Et elle, les premières. Elle faisait partie des cadres. Voilà.
Mais justement, je crois que dans une interview, vous avez dit que c'était facile à coacher les joueuses. Pourquoi?
Mais parce que je pense que c'était devenu facile parce qu'on s'est bien parlé. Ouais, je passe tout mon temps, toute l'année, à voyager, à créer du lien. Et ce lien-là fait que finalement, quand on se retrouve, parce qu'on peut ne pas être d'accord sur avoir des divergences, en tout cas, de s'expliquer, de parler, d'amener du sens dans ce qu'on veut faire, même pour certains, au départ, c'était un petit peu difficile, mais vous voyez que c'était, en tout cas, pour le bien de l'équipe. Voilà. L'important pour nous, c'était de créer les conditions et de ramener, en tout cas, l'intérêt par rapport à l'équipe, même s'il fallait quand même tenir compte aussi des objectifs individuels. Voilà. Donc, je pense que cette clarté-là, cette réciprocité, cette bienveillance-là a fait que finalement, ça a bien pris.
Malick Dao, devenir le coach de l'équipe de France féminine, c'est pas rien. On en a parlé dans une émission il y a quelques mois. Depuis 25 ans, les équipes nationales françaises imitent quelque part le Sénégal des années 70. C'est-à-dire que c'est à la fois bon chez les mecs comme chez les filles. Et en plus, vous venez d'un autre pays, puisque vous êtes né à Dakar, d'un autre continent, et vous atteignez un niveau, un poste extrêmement, extrêmement prestigieux. Et qu'est-ce que ça vous fait, Malick, ce parcours? Vous êtes devenu l'un des plus grands personnages du sport français, et vous venez d'Afrique. Pour tout Africain, c'est inspirant, non?
C'est inspirant. Moi, j'ai qu'un seul mot, c'est respect. C'est respect parce que... Quand on voit qu'il succède quand même à Valérie Garnier, qui était une coach avec sa gouaille, sa personnalité. Je parlais aussi de l'épisode Sandrine Gruda, mais il a parlé de cadre. Voilà, il a fixé le cadre et les filles ont évolué dans le cadre et ça a donné cette belle médaille d'argent. Donc la seule chose que j'ai à lui dire, c'est respect.
Jean-Aimé Toupane. il nous reste quelques minutes. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez envie de nous dire?
Non, c'est
quelques secondes même.
C'est remercier toutes les personnes en tout cas qui ont cru en moi. Remercier en tout cas. Je vous remercie déjà de m'avoir accueilli.
Ah bah c'est nous qui vous remercions.
Et de me permettre en tout cas de m'exprimer. Je suis pas un homme de médias. Je suis pas souvent. Et aussi ma fédération qui m'a fait confiance. Je pense qu'aujourd'hui je suis là où je suis parce que. Comme je l'ai toujours dit, il y a certes les compétences sur l'activité, mais aussi l'aspect humain est important. Et tous, on a en tout cas à cœur d'avoir des gens avec lesquels on peut en tout cas partager des choses, partager des projets, parce que cet aspect humain-là est respecté.
Voilà. Eh bien, écoutez, merci d'avoir partagé ces quelques dizaines de minutes avec nous. Merci Anne, merci Malick, merci à vous.
Merci à vous.
Jean-Aimé Toupane, merci Claude Battista, merci à Sétou Samaké, merci à toutes et à tous qui nous écoutaient. Mondial Sport revient le week-end prochain en attendant un nouveau journal et puis Géopolitique sur RFI.